Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Laurence Dufault, elle est première secrétaire du PS en Ille-et-Vilaine. Elle est également candidate du Parti Socialiste aux élections européennes sur la liste Réveiller l'Europe, liste conduite par Raphaël Glucksmann. Elle est en direct avec nous ce matin au micro de la matinale. Elle est venue de loin pour être avec nous. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors on va parler d'Europe et de politique. Raphaël Glucksmann s'est exprimé, il a fait un discours à Strasbourg. Discours autour des grands enjeux européens, on parlera de défense, on parle aussi de cette Europe sociale. Un discours, je fais un peu de politique politicienne, un discours qui intervient avant un autre discours très attendu, celui du président de la République ce soir.
Effectivement, et on peut être étonné de voir que le président de la République intervienne effectivement dans un moment qui est celui de la campagne européenne en soutien à une des candidates, ce qui pose quand même des questions sur l'utilisation des moyens de l'État. Non pas que le président de la République n'ait pas à s'exprimer sur la question européenne, bien évidemment, mais il est peut-être de bon ton de le faire en dehors des moments de campagne, et ce discours à ce moment-là, alors que la candidate de Renew est à la peine, pose quand même un certain nombre d'interrogations sur l'utilisation des moyens de l'État.
Voilà, et du temps de parole accessoirement aussi sur Absolument. Les médias, hein, voilà, il faut le préciser. Reste aussi aujourd'hui on a une campagne électorale qui se déroule, on va dire, dans un contexte particulier, j'allais presque dire un contexte un peu délétère quand même. On voit, il y a de grands sujets, on parlera de l'immigration tout à l'heure qui cristallise beaucoup de questions, beaucoup de colère aussi. Et puis il y a les candidats. Alors on voit Raphaël Glucksmann, ça tombe bien, vous êtes là ce matin, qui remonte dans les sondages, qui serait peut-être même en passe de dépasser la candidate de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est un bon signal pour la gauche ?
Effectivement, c'est un très bon signal pour la gauche. D'abord, dire que cette reconnaissance de Raphaël Glucksmann est certainement due d'abord aussi au travail qu'il a effectué au sein du Parlement européen et des combats qu'il y a menés. On va peut-être y revenir, mais un certain nombre de combats qu'il a pu mener, que ça soit sur les travailleurs des plateformes ou sur les produits issus de l'esclavage, ont trouvé des débouchés politiques au sein du Parlement européen. Donc cette capacité à mener des combats et à trouver des compromis au sein du Parlement européen, je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français reconnaissent ce travail qu'il a été effectué. Et bien évidemment, le fait qu'il appartienne à la gauche française et à la social-démocratie montre aussi la capacité de la social-démocratie à construire des avancées sociales en Europe. Des avancées sociales, mais aussi des avancées environnementales, et on y reviendra.
Voilà, alors on va parler d'environnement évidemment, alors, il y a beaucoup de sujets, on va tous les balayer, enfin on va essayer de les balayer ce matin. Avec une gauche divisée en France, on a évidemment la social-démocratie, la liste à laquelle vous appartenez, et puis on a également LFI sur le champ très à gauche. Il y a un divorce aujourd'hui entre le PS et LFI et la NUPES en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle va devenir ?
Alors, il y a conscience de tous et de toutes, je l'espère, que la gauche a besoin d'être unie pour offrir un débouché politique. Ça, c'est important, et le Parti Socialiste le réaffirme. Après, c'est de la façon dont on s'unit. Et la question du fonctionnement démocratique et de trouver des points d'équilibre entre l'ensemble des partis de gauche est une question importante qui a amené le Parti Socialiste, effectivement, à suspendre sa participation au sein de la NUPES, parce que nous ne nous retrouvions pas sur le mode de fonctionnement avec effectivement certains membres de LFI, dont Jean-Luc Mélenchon. Nous avons posé la problématique qui était cette problématique du fonctionnement démocratique et de la nécessité de travailler sur nos désaccords pour trouver des points de compromis. Ce message n'est pas encore entendu. J'espère qu'il sera entendu après les élections européennes.
Voilà, parce qu'il y aura d'autres échéances.
Absolument.
Après. Voilà, on ne va pas anticiper. Les combats, vous en parliez à l'instant, Laurence Dufaux. Les combats, aujourd'hui, c'est effectivement une Europe en paix. Là aussi, on va parler de la guerre en Ukraine, évidemment. Mais c'est aussi les combats évidents. On pense à l'environnement. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins. On parle beaucoup de politique politicienne, mais l'environnement, c'est important. Là aussi, c'est le combat principal à mener, à conduire en Europe pour changer les habitudes, pour amener aussi une Europe peut-être à être fer de lance dans ce combat pour le climat, pour l'environnement.
Eh bien, écoutez, je pense, et on le dit, on est face à un mur. Aujourd'hui, la question du réchauffement climatique, elle a été abstraite pendant un certain nombre de temps. On en parlait, on n'en voyait pas les effets. Aujourd'hui, y compris en France, on en voit les effets. Les agriculteurs dans le sud de la France sont confrontés aujourd'hui aux questions des sécheresses récurrentes, les inondations, les tempêtes. La France a connu depuis quelques années et de façon renforcée lors de ce dernier hiver et des derniers étés, la question du changement climatique. Donc on y est confronté aujourd'hui, on le voit très concrètement sur notre territoire, et c'est pas de pause environnementale dont nous avons besoin, comme le prêche le président de la République. Au contraire, il faut aller sur cette question qui est celle de la neutralité carbone en 2050 et de ne pas franchir les 2 degrés de réchauffement climatique. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à plus 1,5 degré depuis 12 mois.
Ce qui est très important.
Ce qui est effectivement et qui montre que la trajectoire qui a été fixée lors de l'accord de Paris est en passe de ne pas être respectée. Donc il faut qu'on aille de façon plus importante sur la question environnementale et ça, c'est le combat que doit porter l'Europe, parce que c'est pas chacun dans nos pays avec la question de la libre concurrence qui pourra effectivement se prémunir de la question de la réchauffement climatique. On voit que les questions concurrentielles sont au cœur aussi de ces questions-là, la question du libre-échange, et effectivement l'Europe doit être fer de lance sur ces questions environnementales.
Alors il y a l'Europe de l'environnement et il y a l'Europe sociale aussi, l'Europe économique, hein, tout ça s'imbrique un petit peu l'un dans l'autre. On a reproché beaucoup à l'Europe d'être une Europe financière, de jouer sur la grande finance et pas forcément de s'occuper très bien d'économie, on parle bien d'économie, et aussi d'Europe sociale, parce qu'on a une Europe sociale à construire. Est-ce que vous imaginez que demain on puisse la construire, cette Europe sociale, ou est-ce qu'il faudra du temps ?
Eh ben, elle a commencé, elle commence à balbutier, cette Europe sociale. On ne peut pas dire que l'Europe n'ait rien fait en matière sociale. On voit effectivement que la question du temps de travail, la question du travail des femmes sont aujourd'hui des questions qui ont été portées et sur laquelle l'Europe a légiféré. Mais la question de l'harmonisation sociale au sein de l'Europe est importante, et c'est une harmonisation vers le haut dont on a besoin, et certainement pas d'une harmonisation vers le bas. Donc, par exemple, sur la question des travailleurs des plateformes, nous en parlions dernièrement, le combat qu'a porté la social-démocratie en Europe et Raphaël Glucksmann, qui a été aussi porté par d'autres groupes qui s'y sont ralliés, a permis effectivement des progrès pour ces travailleurs ubérisés. Donc nous continuons à porter cette question de l'Europe sociale, et elle rejoint fortement la question économique et environnementale. Je prendrai la question de la réindustrialisation et de la souveraineté industrielle. On voit qu'il y a des grands enjeux qui se posent déjà pour la question européenne. D'abord, les enjeux de commerce. Pourquoi faire importer avec les questions de carbone que pose la question des importations, alors qu'on peut produire en Europe, et particulièrement sur des produits sur lesquels il y a de vrais enjeux de souveraineté. Je prendrai par exemple la question du médicament. Mmh. On voit aujourd'hui le laboratoire Servier qui veut vendre en France sa filiale qui produit des médicaments génériques. Mmh. Alors qu'on sait qu'on a un vrai problème aujourd'hui sur l'approvisionnement des médicaments en France et en Europe, c'est des questions effectivement très importantes de souveraineté. Il ne faut pas laisser partir ce type d'industrie de la France et de l'Europe. Et donc réindustrialiser, produire en proximité, donc en circuit plus court, c'est créer également des emplois. Et donc, on rejoint la question sociale sur la lutte contre le chômage, sur la question de la formation, hein, puisque l'Europe est un gros pourvoyeur financier sur la question des personnes privées d'emploi. Et donc, on voit que tout est lié. Et la question, on l'abordait environnementale et des grandes industries qui doivent se construire justement pour porter le changement en environnemental est aussi une question qui permettra la création d'emplois.
Voilà, et pas seulement faire du greenwashing, hein, parce que c'est un peu à la mode aujourd'hui. Ça nous ramène aussi à l'économie. Alors on va faire une petite parenthèse de politique intérieure. On voit aujourd'hui que l'économie française se porte pas trop mal, mais la dette a vraiment dérapé. On est à 5,5% du PIB. On voit aujourd'hui Bruno Le Maire qui s'exprime en disant oui, il va falloir prendre des mesures. Alors les mesures, on les voit poindre, hein, au niveau des ASS par exemple, qui devraient être supprimées. On va reverser finalement les demandeurs d'emploi en fin de droit au département, puisqu'ils ont en charge le RSA. Là aussi, ça pose la question des financements des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe doit être un régulateur aussi de la dette de ces différents pays, doit avoir un mot, en tout cas son mot à dire?
Alors d'abord, ça relève de la question des pays et des nations. On le voit, Bruno Le Maire, la question de la dette, comme vous le disiez, c'est aujourd'hui, il veut la faire payer aux plus pauvres des Français et des Françaises. Alors qu'il y a quand même de l'argent dans ce pays, il y a de l'argent à l'Europe, et la question des taxations des super riches qu'on porte...
Les fameux super profits.
Et des super profits qu'on porte effectivement comme combat au sein du Parlement européen, sur lequel Aurore Laluc a lancé une initiative européenne, entre autres avec d'autres partenaires, mais également des associations, montre qu'on ne cherche pas aujourd'hui là où est l'argent pour combler les déficits, mais qu'on le regarde effectivement sur les plus pauvres d'entre nous. Et la question aussi que porte Bruno Le Maire de la TVA sociale, qui est finalement de faire baisser les impôts des entreprises pour le faire reporter sur la consommation et sur la TVA, et aussi un moyen de taxer les plus pauvres d'entre nous.
Il y a une forme d'injustice.
Il y a une vraie injustice sociale aujourd'hui que porte ce gouvernement sur la question des finances publiques et de comment on s'attaque à la question de la dette. Et donc, la question effectivement européenne et du budget européen est une question importante, puisque un certain nombre d'investissements aujourd'hui pourraient être portés par l'Europe, mais pour cela il faut que l'Europe se dote d'un budget beaucoup plus important, et ce budget effectivement, par la taxation des super profits, par la taxation des plus riches, permettrait de porter un certain nombre d'investissements, et particulièrement la question de l'investissement sur la question environnementale que nous étions en train d'évoquer, et de permettre effectivement de protéger les plus pauvres et les plus vulnérables d'entre nous, pour qu'ils n'aient pas à porter cette question financièrement de la transition environnementale.
Voilà, avec l'énergie aujourd'hui qui est aussi un grand enjeu. Hein. Est-ce qu'il faut prolonger le nucléaire? Est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire et passer directement aux énergies renouvelables? La question est là aussi.
Et du prix de l'énergie, prix, évidemment. Puisque nous demandons effectivement qu'il y ait une tarification sociale sur les prix de l'énergie qui soit faite au niveau européen, qui est également un élément très, très important.
Alors l'Europe, ça a été 70 ans de paix, presque 80 ans de paix. Puis en 2022, la guerre éclate, la Russie envahit l'Ukraine, ou en tout cas tente d'envahir l'Ukraine. Voilà plus de deux ans que cette guerre dure. On a vu l'Europe prendre parti, évidemment, pour aider l'Ukraine. On voit les États-Unis aussi qui votent une nouvelle aide à l'Ukraine. Est-ce qu'il va falloir construire aussi l'Europe de la défense? J'ai posé la question à quelques-uns de nos invités au micro de la matinale, parce que aujourd'hui, on avait un peu oublié oublier cette notion de défense.
L'Europe de la défense, c'est une question que même avait portée François Mitterrand en son temps, la question de la défense et la question de la diplomatie européenne.
La paix n'est pas acquise, avait-il dit.
La paix n'est pas acquise et effectivement, on le voit aujourd'hui avec ces régimes autocratiques et le régime de Poutine qui se maintiennent au pouvoir parce qu'ils exercent aussi des guerres à leurs frontières pour détourner l'attention des populations sur la situation de leur pays. Donc cette Europe finalement a été une belle endormie sur cette question de la paix parce que la construction européenne s'est faite sur la question de la paix, mais on voit que les menaces qui existent aux frontières de l'Europe, mais sur le continent européen, pose des vraies questions sur notre capacité de défense. Tous les pays de l'Europe ne sont pas membres de l'OTAN. Certains d'entre eux sont membres de l'OTAN. Et donc se pose la question de comment on garantit la défense commune de l'ensemble des pays européens. Et c'est une question sur laquelle nous devons avancer fortement, y compris sur la question de l'armement de défense de l'Europe, puisqu'on voit qu'on n'a pas tous les mêmes normes en matière de matériel de défense, ce qui pose d'ailleurs des questions pour l'Ukraine, voilà. Puisqu'on n'est pas en capacité de lui donner des fois des matériels de défense compatibles. Donc cette question de l'industrie de la défense doit se poser demain à l'échelle européenne et nous devons converger également sur notre politique internationale parce que qui dit aussi défense dit politique internationale dit et aussi diplomatie. Donc ce sont effectivement c'est une construction importante à avoir et qui fait partie de la question de la souveraineté de l'Europe puisque nous pouvons évidemment avoir des collaborations importantes avec l'OTAN. Mais l'Europe doit aussi pouvoir garantir, avec des collaborations, mais sa propre défense.
Alors, l'Europe de la défense, l'Europe de la diplomatie, et une inquiétude, on entend beaucoup bruisser ces temps derniers autour de cette directive européenne qui enlèverait la souveraineté aux États. Alors voilà, c'est on va parler tout à l'heure de la souveraineté des États, Europe fédérale ou Europe des nations, hein, c'est le grand débat également. Cette souveraineté des États aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose dont on va tourner la page dans les années à venir, justement, pour aller vers l'Europe fédérale, oublier un peu les nations pour avoir une Europe plus unie?
C'est la grande question qui se pose aujourd'hui au niveau de l'Europe, la question de jusqu'où on va dans ce saut fédéral qui est nécessaire. Donc les pays ont abandonné certaines souverainetés nationales. La question du commerce aujourd'hui est une question totalement traitée par l'Europe. La question de la politique agricole commune est une compétence exclusivement européenne. On vient de parler de la défense. On voit qu'effectivement, il y a certainement un saut fédéral à faire.
Avec des craintes hein, pour la défense.
Et hein,
on entend des voix, si demain on abandonne notre siège
à l'ONU,
au Conseil de sécurité.
Ça pose...
Il y a une symbolique importante.
Il y a une symbolique importante, mais se pose la question de la souveraineté européenne et de la solidarité européenne. C'est-à-dire aujourd'hui, la vraie question qui se pose à nous. Est-ce qu'on pense tout ce que dans nos frontières internes nous sommes en capacité de faire face aux grands enjeux et mondiaux qu'on évoquait, les enjeux liés à l'environnement, les enjeux liés aux crises internationales, mais les enjeux sociaux également. Donc, est-ce que c'est à l'intérieur de nos frontières qu'on trouve les solutions ou sur des frontières élargies qui sont les frontières européennes qu'on peut trouver les solutions? Nous pensons, nous, au sein de la social-démocratie, qu'il va falloir aller beaucoup plus loin sur ces questions et qu'il y ait aussi des abandons de compétences plus importantes qui soient faites au niveau européen. Mais ça doit se construire et doit se poser la question de comment se prennent les décisions au sein de l'Europe. les questions de la majorité qualifiée, les questions de l'unanimité sont des questions également importantes, et donc de comment on construit ces décisions, nous devons y travailler parce qu'elles sont intimement et intrinsèquement liées à la question de l'abandon de certaines parts de notre souveraineté Alors nationale.
Vous imaginez, Laurence Dufault, qu'on entend quelques formations politiques quand même crier au loup. On parlait tout à l'heure des sondages. Les sondages restent des sondages. On voit le Rassemblement National avec Jordan Bardella qui est donné à 32% sur les derniers sondages précisément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous inquiète? Est-ce que vous dites, là, il y a une forme de demande de repli, quelque part?
Demande de repli, je ne sais pas, mais certainement crainte. Et exprimé à travers ce vote très 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 certainement, et il ne faut pas le nier, les bouleversements climatiques, les bouleversements internationaux, les bouleversements sociaux créent de la peur chez nos concitoyens et nos concitoyennes. C'est indéniable. Après, c'est quelle capacité on a de construire les réponses. Et est-ce que le Rassemblement national et les nationalismes de tous bords européens sont en capacité de créer ces réponses? Je le disais, est-ce que très sincèrement, on pense que c'est à l'échelle de la France que demain, on va pouvoir résoudre la question environnementale? Est-ce que les questions économiques, on pense que la France toute seule sera en capacité de se protéger et de protéger effectivement son modèle social toute seule? Je ne le crois pas, nous ne le croyons pas, et c'est bien la question qui est posée. Donc, des craintes, des peurs, nous les entendons, mais est-ce que les solutions que propose le Rassemblement national et tous les nationalismes sont les bonnes solutions? Très certainement pas, et c'est tout le travail que nous devons faire au sein, lors de ces élections européennes.
Alors, il y aura aussi la question de l'immigration. Il faut en parler, car aujourd'hui, on voit qu'il y a des flux migratoires importants. Beaucoup de personnes viennent du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, dit-on pudiquement, pour venir vers l'Europe, alors vers la France certes, mais vers l'Europe plus largement, pour essayer de trouver une vie meilleure, pour essayer de trouver un travail, pour construire quelque chose. Le problème, c'est que on a du mal à accueillir ces personnes qui viennent, on a du mal à les bien recevoir, et puis il y a cette crainte des populations vis-à-vis d'elles. Aujourd'hui, on a l'impression d'un enjeu, alors certains diront civilisationnel, le mot est peut-être fort, mais on a l'impression d'un enjeu, d'un grand changement, là aussi. Est-ce que l'Europe va devoir mettre en place des politiques migratoires? Alors, on a déjà le pacte immigration qui a été adopté au Parlement européen.
Que nous n'avons pas voté.
Et que vous n'avez pas voté, j'allais le préciser effectivement, et vous allez nous dire pourquoi. Mais justement, est-ce que l'Europe et les pays membres vont devoir travailler de concert pour pouvoir accueillir les migrants, ou pour pouvoir dire parfois, bien, on peut pas parce que voilà, on n'a plus de place ou on n'a plus de travail à leur donner?
Alors, je pense qu'il est important de reposer des chiffres sur la question migratoire, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de grand remplacement, et il n'y a pas de submersion migratoire.
Ce n'était pas dans mes propos.
Je le dis parce qu'on était sur la question des nationalistes, et je pense qu'il est important de le rappeler aux auditeurs et aux auditrices. Quelques chiffres tout simples. Aujourd'hui, la population étrangère en Europe, c'est 5%. 5%, la population, on va dire, quand on compte ceux qui ont acquis la nationalité des différents Européens, c'est 8%. Mmh. Donc on voit bien qu'on est complètement en dehors de ces questions de subversion ou de grand remplacement. Rappelez aussi que les migrations, elles sont aujourd'hui très fortement des migrations légales, puisque dans les flux migratoires, on est aujourd'hui entre 3 à 5% d'immigration qui sont l'immigration illégale. Mmh. Donc les immigrations qui existent aujourd'hui sont très majoritairement des migrations légales. Vous le disiez, il y a des migrations pour des questions économiques, mais elles sont principalement aujourd'hui liées à des migrations pour des causes de guerre dans le monde, ou de persécution d'États sur leur population, qui amène les populations à migrer. Et demain, il va falloir s'attaquer à cette question, la question des migrations climatiques. Mmh. Nous allons également y être confrontés. Donc, il n'y a pas de crise migratoire, je pense qu'il est important de le dire. Il y a une crise du premier accueil et il y a une crise de l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'intégrons pas dans nos pays les populations en leur permettant d'accéder au travail, en leur permettant suffisamment les apprentissages de nos langues, et puis il n'y a pas suffisamment de répartition des flux migratoires au sein de l'Europe, puisque aujourd'hui seulement quelques pays accueillent les flux migratoires. Donc c'est tout le travail que nous avons à faire au sein de l'Europe, travailler sur cet accueil, travailler sur l'intégration et ne pas laisser dans une misère sociale qui provoque aussi en termes de santé mentale, mm-hmm. des conséquences catastrophiques pour les migrants. C'est tout le travail qu'a à faire l'Europe. Et bien évidemment, lutter contre les immigrations illégales et contre ces passeurs aujourd'hui qui constituent des mafias aussi au niveau international, sont les deux axes sur lesquels nous devons travailler. Et si nous n'avons pas voté le pacte asile-immigration, c'est parce que nous ne nous attaquons pas à cette question du premier accueil et à cette question de l'intégration qui, pour nous, sont effectivement les deux objets principaux sur lesquels l'Europe doit aujourd'hui travailler.
Alors, il nous reste deux petites minutes. Je n'aime pas tellement mettre, en balance l'immigration et en face la sécurité, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une peur de migrants, finalement, dans nos villes. Mm-hmm. Et puis, il y a des problèmes d'insécurité qui sont décorrélés. Il ne s'agit pas de faire un amalgame. Est-ce que ça participe aussi de ce climat aujourd'hui de peur et de... Elle est délétère un petit peu autour de l'immigration.
Ben oui, effectivement, on voit que les discours du bouc émissaire sont des discours faciles sur lesquels on peut très facilement se laisser prendre en disant que de toute façon, tout est la faute des étrangers. Si on n'a pas de travail, c'est la faute des étrangers. Si on n'a pas accès au logement social, c'est la faute des étrangers. S'il y a de la criminalité, c'est la faute des étrangers. La réalité, elle n'est pas là. Des fois sur le fait qu'on ne donne pas les moyens pour la construction de logements sociaux, par exemple, et on ne permet pas aujourd'hui la relance de la construction de logements sociaux. Et sur la question de la sécurité, le grand problème auquel on est confronté et la violence à laquelle on est confronté, aussi sur les questions de trafic de drogue. Mmh. Et c'est cette question-là, effectivement, du grand banditisme international et de comment les pays coopèrent et comment, effectivement, nous arrivons à nous attaquer, y compris financièrement, mmh. sur la question des grands trafics, est une question importante et sur laquelle il faut donner des moyens à nos polices et à nos justices.
Voilà, on a les opérations PlaceNet XXL, on les a vues dans de nombreuses villes en France, y compris ici à Rennes, où il y a hélas un trafic de drogue important, comme à Brest, comme à Lorient. La Bretagne était un petit peu épargnée, aujourd'hui on ne l'est plus. Est-ce que aussi c'est un travail sur les territoires, et on terminera là, il nous reste à peine une petite minute, c'est très court, mais un travail sur les territoires aussi, en coordination avec les élus de terrain?
Évidemment, et l'ensemble des élus des terrains dans les villes sont mobilisés sur ces questions-là, sur les questions de prévention, sur le tissu également associatif présent sur le terrain. C'est un travail coordonné qui doit se faire effectivement avec les collectivités territoriales avec l'État, mais je crois que tout le monde en a conscience. Après, c'est la question des moyens que nous devons donner à la police et à la justice pour y faire face.
Et on va s'arrêter là, Laurence Dufaux, car voilà, on va devoir rendre l'antenne à Laurence Dufaux, première secrétaire du PS en Ille-et-Vilaine, candidate du Parti Socialiste aux élections européennes sur la liste Réveiller l'Europe, conduite par Raphaël Glucksmann, première radio ici à Bretagne 5.
Absolument. Voilà, merci pour votre accueil et votre invitation.
Eh bien, c'était un plaisir de vous recevoir au micro, et on nous dit qu'on ne reçoit pas assez de femmes au micro, voilà, on fait des efforts. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée, au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.